Aurélien Scholl, jolie satiété. Quel est le chroniqueur asthmatique, le journaliste vidé, qui n'étant pas sorti de chez lui, alors ça m'en parle les gazettes à domicile, s'est écrié le premier « Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui ?» Cette formule est restée. Elle a servi les paresseux et les indifférents qui veulent exercer leur métier par-dessous la jambe. Celui qui a osé dire qu'il n'y avait rien de nouveau, quel que fût le jour, quelle que fût l'heure, celui-là en a menti impudemment. Quand ce ne sont pas les grandes choses, ce sont les petites qui surgissent, qui changent d'aspect. Il y a du nouveau autant qu'on en veut. Depuis l'Élysée jusqu'à la morgue, tout change, tout passe. Voyez les journaux les plus graves. Tant que les grandes questions remplissent leurs colonnes, tant qu'ils ont des discours à reproduire, ils annoncent à peine un incendie, un vol nocturne. Ils ne se dérangent guère que pour un assassinat. Mais quand au contraire, la politique ne donne pas, quand les chambres sont prorogées, on ne voit plus que guet-apens, enfants écrasés par des voitures ou incendiés par l'imprudence de leurs parents, qui leur avaient donné des allumettes en disant « Nous sortons, amusez-vous bien !» On ne peut plus démolir un mur sans que les maçons y trouvent un trésor. Un agent voyer casse-t-il une pierre sur une grande route ? Cette pierre enfermait un crapaud qui dormait là depuis des mille ans. Un homme ne peut plus faire un trou dans sa cave sans y découvrir des ossements ou des monnaies du temps de Vespasien. La mer rejette des bouteilles pleines de documents. Un capitaine de frégate écrit qu'on a aperçu à quelque distance du parc de Tenerife un poulpe monstrueux. Le Constitutionnel reprend son vieux serpent de mer. La Patrie raconte pour la 20e fois l'histoire d'un lion échappé d'une ménagerie. Et le Journal des débats, soucieux de la tradition, commence une variété intitulée « Le rôle du coton dans les oreilles sous les carlovingiens ». Je remontais dans l'après-midi le boulevard des Capucines en essayant de fumer un de ces morceaux de bois charbonneux que la régie nous vend sous le nom de conchas. Oh, si l'Inquisition avait connu ce genre de cigare, elle lui eût certainement donné une place distinguée dans l'arsenal de ses tortures. Exaspéré de l'inutilité et de mes efforts, je maugréais contre le ciel qui m'a fait naître à une époque où les cigares sont en racine de mancheliliers, le bœuf en cheval de fiacre, le mouton en chien noyé, le café en sueur de bois, le beurre en suif, les femmes en sous-nitrate de bismuth et les gouvernements en capilotade. À la hauteur de la rue Scribe, je rencontrais le baron Jacob, orné d'une éclatante rosette rouge. Il conduisait un phaéton attelé de deux chevaux de grande allure, et derrière lui un valet de pied, constellé de boutons de cuivre, se laissait aller, les bras croisés, à quelques rêveries que Ruy Blas seul pouvait expliquer. L'instant d'après, passa à égard de vieux lapins, plus pimpant et plus brillant que jamais. Considérant ces deux échantillons de la société parisienne et songeant à beaucoup d'autres, je me reportais au temps les plus reculés pour prendre un point de comparaison. À Sparte, on punissait les voleurs maladroits. Plus on y pense et plus on est pénétré de cette vérité que c'est absolument la même chose en France. Les voleurs adroits tiennent le haut du pavé. Ils habitent des hôtels splendides, où tous les escaliers sont dérobés. À eux, les produits de Mendel, à eux les chevaux de l'Angleterre et de l'Arabie, à eux les femmes les premiers effarements des jeunes filles que les mères infâmes vendent aux conservateurs. À eux les grands parcs et les grandes chasses. L'hiver, ils achètent le soleil de Nice. L'été, ils ont le frais ombrage de la Normandie et de la Bretagne. Les voleurs maladroits, au contraire, remplissent des prisons et des maisons centrales. Pas de pitié pour les imbéciles qui ont volé quelques centaines de francs, falsifié une signature pour toucher un effet de 50 louis sous un nom opposé. Fermez les cellules sur cette racaille et chapeau bas devant le baron Jacob. Voilà un homme. Il a plus de 100 millions. Et j'ai dans mon tiroir une vingtaine de morceaux de papier qui m'ont coûté 200 francs la pièce et qui sont cotés 8 francs à la bourse. La différence est dans la poche du baron. Je me suis laissé tenter, comme tant d'autres, et j'ai acheté de l'emprunt Jacob. Le baron fait la fête avec les économies de la bourgeoisie française, avec les épargnes des ouvriers, économes. Mais ce n'est point un voleur. La preuve, c'est qu'il n'est pas à Mazas. Le ministre lui serre la main, lui donne des croix pour qu'on ne le confonde pas avec les mauvais larrons. Les ambassadeurs vont chez lui, chasser. Et l'escroc se pavane dans sa richesse et dans une impunité glorieuse. Voilà ce que c'est que de faire grand. Il y a un livre curieux à écrire sous ce titre « Les escrocs du grand monde ». Oh, sans chercher bien loin, je me rappelle le vicomte de chassé du club après avoir été pris en flagrant délit de vol. Il trichait depuis 20 ans. Le duc de qui d'un coup de filet a ratissé les économies de toutes les actrices et de toutes les cocottes de Paris. Les femmes de chambre de ces dames le suppliaient de vouloir bien accepter leurs petites épargnes. On avait beaucoup de peine à l'y décider. C'était pour la grande affaire des huiles. On n'en a jamais vu d'huile. Jamais revu un sou. Le baron de condamné à 2 ans de prison pour avoir introduit un jeu de cartes à lui dans un cercle de province. Le marquis de condamné 2 fois à 10 mois de prison et 15 mois tout dernièrement pour escroquerie et abus de confiance. Hélas, que j'en ai vu passer de ces vicomtes. C'est le destin, il faut une proie à Poissy. Des voleurs maladroits, voyez-vous. Les malins ont l'horloge à l'opéra et tous les biens de ce monde. À qui cet hôtel qu'on achève? Oh, Blankenheim. Mais combien coûte-t-il? 5 millions. Et où les a-t-il gagnés? On ne sait pas. C'est un Prussien? Bon, il s'est fait naturaliser français. C'est un Juif? Bon, il s'est fait naturaliser protestant. Oh, alors! À l'opéra. Quelle est cette dame couverte de diamants? Madame X, devenue Madame de, puis comtesse de Z. Son passé. Oh, tout le monde à Londres a pu l'avoir pour 5 livres. Et celle-ci, dans la loge voisine. Oh, Madame Blanc. Son origine, fille d'un arabe et d'un chameau. La suite, aux chanteuses de troisième ordre. Et maintenant, oh, comtesse aussi, maîtresse d'un roi. On dit même qu'il va l'épouser du pied gauche. Il y en a 50 de cette espèce. Oh, le côté des hommes est encore pire. Dans la caverne d'Ali Baba, il n'était que 40. Quel progrès! le seul qu'on ait fait en France depuis 25 ans.